Jazz and Blues, bonjour. C'est Bernard à l'antenne, tout seul parce que Gaëtan est parti dans une autre région et donc il ne peut plus participer. Et donc à ce propos, si quelqu'un a envie de venir participer ou faire des émissions sur la radio, sur le jazz, en alternance ou en même temps, tout est possible. Il suffit de contacter Radio U et on mettrait ça en place. Voilà. En attendant, je continue la diffusion de l'histoire du jazz enregistré et nous en sommes en 1939.
Le jazz sur Radio U, t'es loin d'avoir tout entendu.
Et nous commençons avec Cab Calloway. Cab Calloway, chez Cab Calloway, au début de l'année 1939, aucun révolutionnaire ne venait encore perturber l'ordre établi. Le délire propre au chanteur chef d'orchestre suffisait largement au bonheur des auditeurs. Il demeurait l'étonnant chantre d'un certain délire verbal et son utilisation du jive, de l'argot américain jumping jive, illustrant parfaitement cette veine, était proprement stupéfiante. Nous allons écouter Jumping Jive. Donc, il s'agit de l'ensemble avec Mario Bosa, Irving Randolph, Lamar Wright, Doc Chitam à la trompette, Claude Jones, Kay Johnson, Dupriest Wheeler au trombone, Chauncey Houghton, Audrey Brown à la clarinette et au saxophone alto, Walter Thomas, Schuberry au saxophone ténor, Benny Payne au piano, Danny Barker à la guitare, Milt Hinton à la basse, Cozy Cole aux percussions, Edgar Batten Michael aux arrangements et Cab Calloway comme leader. Et c'est enregistré, et Cab Calloway aussi bien sûr comme chanteur. Et c'est enregistré à New York le 17 juillet 1939 pour Vocalion, référence WM 1057. Voici Jumping Five.
Gonna tell you about the jumping jive. Jim, Jim, jump the jumping jive. Cat's gonna beat out the smell of jive. Beat it out on the mail side. Jive makes you hep hep on the mellow side. Hep hep. Jumping jive, Jim Jam, jump the jumping jive. I know you dug this melody jive. Boom, you dig it on the melody.
C'était Cab Calloway and his orchestra. Le thème était Jumping Jive. Et c'était un thème de Froese, de Palmer et de Calloway. Et donc, un autre titre de Calloway. Alors, c'est Ratamacue. Autre sensation de l'année 1939 qui permit à Cozy Cole, le batteur de Calloway, d'étaler sa superbe technique. Les concertos de ce genre sont beaucoup plus rares qu'on pourrait l'imaginer sur les disques, car un numéro de batterie qui enchante le public d'un concert perd une grande partie de son charme lorsqu'il est confié au sillon. Cozy Cole fut l'un des batteurs les plus appréciés de cette fin des années 30 et dirigea ultérieurement son propre ensemble. Il créa même une école de batterie associée à Jen Krupa. Donc ce sont les mêmes musiciens, sauf que Mario Boza ne joue pas et est remplacé par Chad Collins. Et donc, c'est enregistré à New York le 20 février 1939 pour Vocalion sous la référence M972-1. Ratamacue.
Thank you.
70s Orchestra, Ratamacchio, un terme de Cozy Call de W. Thomas and the Battle. Et donc, c'était Cozy Call à la batterie en solo. Et nous allons écouter maintenant Benny Carter and his Orchestra. Alors, Benny Carter, il était dans une année faste. Une année faste, si l'on considère qu'il se produisait à la tête de son propre orchestre au Savoy Ballroom de New York. Tout ce que je gagnais, dit-il, je le donnais à mes musiciens afin de les conserver. Mais même si je jouais ma propre musique, il fallait des copistes et acheter du matériel. Des copistes pour faire les partitions, pour tous les musiciens et acheter du matériel. Lorsque les dépenses dépassaient les recettes, Carter vendait un de ses arrangements dont il avait le secret. Et il n'avait guère de mal à trouver preneur car il était de loin un des plus cotés sur la place de New York. Une des manières de conserver son grand orchestre aurait été de faire comme ses collègues, c'est-à-dire de partir en tournée à travers le pays. Mais Carter n'avait jamais aimé voyager dans les telles conditions et il craignait de s'éloigner trop longtemps de son cher New York. Ça ne l'avait pas empêché de se rendre en Europe, mais il est vrai qu'il y était allé avec Willie Lewis, et qu'il n'avait pas eu à se soucier de grand-chose, puisqu'il n'était qu'un musicien parmi les autres, et en tout cas pas le leader. Donc nous allons écouter Riff Romp. Et nous avons dans l'orchestre Joe Thomas, Lincoln Mills, Eddie Mullens à la trompette, Jimmy Archer, Vic Dickinson au trombone, Tyree Glenn au trombone et au vibraphone, Benny Carter, James Powell, Carl Fry au saxophone alto, Ernie Powell, Castor McCord au saxophone ténor, Eddie Haywood J au piano, junior je veux dire, Ulysse Livingston à la guitare, Hale Alvis à la basse, Henry Morrison aux percussions, enregistré à New York le 26 juin 1939 pour Vocalion, pour sur la référence WM 1019A. Et nous écoutons Riff Romp. Riff from Pentem de Benny Carter, joué par Benny Carter and his orchestra.
Le jazz sur Radio U, t'es loin d'avoir tout entendu.
Benny Carter n'était pas le seul à défendre des conceptions musicales élégantes et raffinées. Et parmi les jazzmen blancs les plus réputés, Tommy Dorsey avait toujours eu le souci d'imposer un jazz élégant et surtout de conjuguer les vertus d'un jazz viril, celui des Dixielanders, et la séduction d'arrangements raffinés. En engageant Cy Oliver, ou Cy Oliver, je ne sais pas si, comment on le prononce, en 1939, l'arrangeur de Jimmy Lunsford, pratiquement le son de Lunsford. Il y mit le prix, il lui proposait $5,000 de plus que ce que lui donnait Lunsford. Quoi que tu fasses, joue ou écris pour lui. C'était là un nouvel épisode de la guerre des gangs. Les chefs d'orchestre blancs les plus à la mode pouvaient souffrir n'importe qui. Après Fletcher Anderson, qui avait été embauché par Benny Goodman, c'était Oliver qui était débauché par Dorsey. S'il est vrai que Lunsford sous-payait Oliver et que Anderson n'était plus capable alors de gérer sa grosse machine, il n'en restait pas moins que l'égalité n'était toujours pas de ce monde et que lorsqu'on lançait une pièce en l'air, elle retombait toujours du même côté et surtout dans la même poche. Les blancs, de manière générale, réalisaient de gros profits et même si cela n'avait rien de nouveau, on ne pouvait que le constater. Lorsque la mode du swing était venue, elle avait porté en avant des blancs qui devaient beaucoup aux noirs. Lorsqu'elle commença à passer, elle mit d'abord sur le sable des orchestres noirs qui n'avaient pas suffisamment de moyens pour pouvoir venir ou pour se convertir en défenseurs présentables de la guimauve musicale. Donc nous allons écouter Tommy Dorsey and his orchestra. Stop, it's wonderful, c'est un thème de Rechner et Boland. Et ensuite, Stomp it off, c'est un thème d'Oliver. Nous avons dans l'orchestre, pour les deux formations, Andrew Ferretti, Mickey Bloom, Jan Clausen à la trompette, Tommy Dorsey, Ward Siloway, Elmet Smither pour le trombone, Johnny Mintz à la clarinette et au saxophone alto, Amy Scherzer au saxophone alto, Babe Russin Skek Erfurt au saxophone ténor, Howard Smith au piano, Carmen Mastrin à la guitare, Jen Traxler à la basse, Cliff Lehman aux percussions, Edith Wright en vocaux dans le premier que nous écoutons, Paul Weston, arrangement pour le premier que nous écoutons, Cy Oliver, arrangement pour le deuxième. C'est enregistré à New York le 20 juillet 1939 pour Victor, et la référence est le 038-107-1 pour le premier et 038-109 pour le deuxième. Donc, nous écoutons tout d'abord Tommy Dorsey, Stop It.
Turn the key. can't forget what Ma told me. Stop. It's wonderful.
Andy's Orchestra, et maintenant Stompy It Off, toujours le même orchestre. Thank you. Band des Orchestras, c'était Stomp It Off, un terme de Sir Oliver. Et nous allons passer à Duke Ellington. Alors, Duke Ellington, à la tête de son grand orchestre, il traçait la voie à l'écart des grands courants de la mode. Il aimait pourtant connaître les périodes où il dut quelque peu pratiquer avec les tenants du réalisme. En cette année 1939, il fit sa deuxième tournée en Europe, l'occasion pour lui de découvrir de nouveaux paysages, mais surtout de comprendre qu'il disposait là d'un public qui ne lui demandait que d'être lui-même, ce qui pourrait à long terme constituer une base de repli pour peu que l'Amérique se montrât ingrate avec ses plus grands créateurs. À cette même époque, Billy Strayhorn commença à travailler pour Ellington. Le pianiste-compositeur deviendrait pour Duke un indispensable collaborateur au point qu'on le considéra comme son alter ego. Parmi les œuvres les plus significatives que Duke confia à la CIA en 1939, citons Pussy Willow, Cotton Club's Trumpet et Portrait of the Lion, que nous allons écouter les trois. La dernière citée, c'est Portrait of the Lion, appartient à la fameuse galerie de portraits ellingtoniens inaugurée avec Black Beauty, dédiée à la danseuse Florence Mills. The Lion n'était autre que Willie the Lion Smith, le vieux maître du piano que Duke admirait tant et qui fut l'un de ses principaux inspirateurs. Mais le lion en avait marqué bien d'autres, y compris James P. Johnson, autre maître aux yeux de Duke. Billy Strayhorn était aussi parmi ses admirateurs de Smith. Cotton Club Stomp avait été enregistré pour la première fois 10 ans auparavant et renvoyé doublement à une époque révolue puisqu'il évoquait directement le Cotton Club. Duke opérait toujours un savant dosage entre le répertoire éprouvé et les compositions nouvelles. En 1939, l'ensemble était habité par une nouvelle énergie et l'œuvre de Duke allait bientôt atteindre son plein équilibre. On peut même considérer que l'on entre dans la période musicale la plus fertile de toute son histoire. Donc nous allons écouter les trois morceaux, c'est-à-dire Duke Ellington and His Famous Orchestra, Pussy Willow, un thème d'Ellington, Portrait of the Lion, un thème d'Ellington, et Cotton Club Stomp, un thème carné de Johnny Hodge et de Ellington. Et nous avons dans l'orchestre Cootie Williams, Rex Stewart, Wallace Jones à la trompette, John Anton, Lawrence Brown, Juan Tizol au trombone, Johnny Hodge, Otto Hardwick au saxophone alto, Barney Bigard à la clarinette et au saxophone ténor, Harry Carney au saxophone baryton, Duke Ellington au piano, Fred Guy à la guitare, Billy Taylor à la basse, Somigier au percussion, enregistré à New York le 20-21 mars 1939 pour Brunswick sous la référence WM 997-1 WM 1006-1 et enregistré à New York pour le troisième morceau le 6 juin 1939 pour Brunswick toujours sous la référence WM 1030A. Et donc nous écoutons d'abord Pussy Willow par Duke Ellington. Thank you. Pussy Willow par Duke Ellington and his famous orchestra.
Le jazz sur radio, t'es loin d'avoir tout entendu.
Et voici Portrait of the Lion de Duke Ellington par Duke Ellington and his orchestra. Lion par Duke Ellington et voici Cotton Club Stomp.
Thank you.
Jump par Duke Ellington. Et maintenant, on pourrait parler de Lou Ford, mais aucun orchestre ne pouvait se targuer à l'époque de posséder un son d'ensemble aussi beau, aussi raffiné. Et le tempo de Lou Ford était tellement entraînant qu'on éprouva le besoin d'utiliser à son propos le qualificatif de bouncing, rebondissant, et de parler de bounce afin de décrire son élasticité sans pareil. Un seul homme pouvait alors le disputer à Lou Ford dans le domaine du rythme, mais il mourait quelques mois plus tard. En enregistrant en tête Want You Do, peu de temps après Lou Ford, Undecided et My Heart Belong to Daddy, il donna le meilleur de lui-même. Seule la tuberculose osseuse put terrasser Chick Webb, car c'est de lui qu'il s'agit. Car sur scène, il était pratiquement invincible et avait défait presque tous les orchestres qui s'étaient hasardés sur les terres de son royaume, le célèbre Dancing Savoy Ballroom. Dans les trois morceaux que nous venons de citer, le petit batteur partage la vedette avec Ella Fitzgerald, la jeune chanteuse qu'il avait engagée en 1935. Sans lui, elle n'aurait peut-être jamais accédé à la gloire, en tout cas pas si rapidement. Il fut pour elle plus qu'un professeur, un père adoptif qui guida ses premiers pas dans le métier et lui apprit ce que d'aucuns considèrent comme l'essence même du jazz, le rythme, le swing si l'on préfère, sans quoi rien n'est vraiment possible, morale connue et qui fait l'objet de quelques opuscules bien senti, notamment It Don't Mean a Thing et That What You Do, rappelons-le. À sa mort, Ella prendrait bientôt la tête de l'orchestre et s'efforcerait contre vents et marées de faire survivre quelque temps l'ensemble, mettant en péril sa propre carrière. Donc nous allons écouter Undecided, un thème de Shivers et Robin, et puis My Heart Belongs to Daddy, un thème de Cole Porter. Nous avons dans l'orchestre Cootie Williams, pardon, nous avons Dick Vance, pardon, pas Cootie Williams, Dick Vance, Bobby Stark, Taft Jordan à la trompette, Sandy Williams, Nat Story, George Matthew au trombone, Garvin Buchel à la clarinette et au saxophone alto, Hilton Gerson au saxophone alto, Ted McRae au saxophone ténor, Wayman Carner au saxophone ténor et à la flûte, Tommy Fulford au piano, Bobby Johnson à la guitare, Beverly Peer à la basse, Chick Webb à la percussion et Ella Fitzgerald au vocal, ou à la voix donc. Enregistré à New York le 17 février 1939 pour DECA, référence 65038A et 65043A.
Then you promise to return. When you don't, I really burn. Well, I guess I'll never learn. And I show it. If you got a heart, and if you're kind, and don't keep us apart, make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do? Now, if you don't love me, I wish you'd say so. I love you so much, honey, I just got to know. I'm just a fool for you. What are you gonna do? To call on young cuties, but now I find I'm more inclined to keep my mind on my duty. Since I began to share in such a sweet love affair, though I'm in love, I'm not above a date with a duke or a caddy. It's just a pose, 'cause my baby knows that my heart belongs to daddy. When some good scout invites me out to dine on some fine fin and haddie, my baby sure his love is secure, 'cause my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. So I simply couldn't be bare. Yes, I'm gonna marry daddy. If you feel romantic, laddie, let me warn you right from the start that my heart belongs to daddy, and my daddy belongs to my heart. If you feel romantic, laddie, let me warn you right from the start that my heart belongs to daddy, and my daddy belongs to my heart.
Gerald with Chick Webb and his orchestra, joué Undecided, puis My Heart Belongs to Daddy.
Le jazz sur un nuit, t'es loin d'avoir tout entendu.
On oublie parfois que c'est Benny Goodman qui permit à Billie Holiday d'enregistrer son premier disque. Elle se souvient de ce jeune mec très beau, à l'air sérieux, qui venait l'écouter au Log Cabin. C'était en 1933. À l'époque, le clarinettiste n'était pas un parfait inconnu dans le monde du jazz, mais 6 ans plus tard, il était devenu une très grande vedette. En février 1939, à la tête de son grand orchestre, il grava un morceau utilisé and the Angel Sing, composé par Ziggy Erman, un des trompettistes. Ce dernier, fils d'un chantre, avait souvent entendu pendant son enfance, notamment à l'occasion de mariages, interpréter de la musique populaire juive. Et quand Benny avait mis dans son répertoire Baimir Bizdouchen, chanson yiddish qui fut un fameux succès, Elman se régala à l'enregistrer. C'est ainsi qu'il eut l'idée de se lancer dans la composition d'un morceau du même type et créa Freilich in Swing, Freilich signifiant joyeux en yiddish. Et c'est ce thème qui fut rebaptisé au profit des anges par le parolier Johnny Mercer. À cette époque, Goodman se partageait toujours entre son grand ensemble et une petite formation. Il ne s'agissait plus du fameux trio avec Lionel Hampton au vibraphone, Teddy Lewison au piano et Jen Krupa à la batterie. Les deux derniers étaient repartis pour voler de leurs propres ailes. Et seul le vibraphoniste se trouvait là lorsque fut enregistré Rose Room, thème qui datait de 1917 et avait été composé par Art Hickman. Divers jazzmen en donnèrent d'intéressantes versions et l'une des dernières en date, celle de Artichaut, avait été gravée début 1939. La grande nouveauté pour Benny Goodman à cette même époque fut l'arrivée dans l'orchestre du guitariste Charlie Christian sur recommandation du producteur John Hammond. À la première audition, Goodman était resté de marbre et il fallut que son contrebassiste Artie Bernstein manigança pour imposer le guitariste. Il se produisait dans une boîte de Los Angeles, le Victor Hugo, et le matériel de Christian fut installé sur la scène sans que Goodman ait été prévenu. Mais devant le fait accompli, le clarinettiste fit la grimace et attaqua d'entrée Rose Room, précisément le morceau que nous avons choisi pour illustrer la nouvelle association. Ils improvisèrent près de 50 minutes sur ce thème et Goodman en fut profondément bouleversé. La suite est bien connue, il engagea le guitariste et en fit son soliste vedette. La nouveauté était d'autant plus remarquable que Charlie Christian imposait au monde jazz la guitare amplifiée, accomplissant ainsi une révolution dont les conséquences seraient considérables, puisque l'on peut parler de l'avant-Christian et de l'après-Christian pour la guitare jazz. Dans ce même morceau, le pianiste et Fletcher Anderson, sa participation au sextuor de Goodman était aussi un signe du temps. Le clarinettiste l'avait d'abord et avant tout engagé en tant qu'arrangeur. Après tout, le son de Goodman n'était-il pas un avatar du son d'Anderson? Goodman n'avait jamais caché sa dette envers le musicien noir et en l'embauchant, il ne fit que mettre formellement à son service un homme qu'il avait indirectement servi pendant des années. Ce faisant, Goodman n'agissait pas seulement en maître prospère, il venait en aide au malheureux Anderson, qui avait dû dissoudre son propre orchestre et qui n'avait plus la force morale de veiller, comme il l'avait fait longtemps, sur les destinées d'une grande formation. Évidemment, avec Charlie Christian, Lionel Hampton et Fletcher Anderson, Goodman disposait d'un orchestre mixte, composé de noirs et de blancs, ce qui allait encore soulever quelques polémiques. Il n'en était pas à son coup d'essai, et il avait déjà imposé à ses côtés Teddy Wilson et Lionel Hampton. Néanmoins, l'Amérique n'était pas moins raciste, et il fallait son courage tranquille pour persister dans une belle voie et dans une telle voie et imposer, contre vents et marées, des choix purement musicaux. L'orchestre de Benny Goodman était le parfait symbole de l'âge du swing, de même que celui de Fletcher Anderson avait été celui de l'âge du jazz tout bonnement. Et en cette fin des années 30, les courants souterrains agitaient les eaux du jazz. Des musiciens apparaissaient, tels que Charlie Christian chez Goodman, au sein des grands orchestres, qui deviendraient bientôt les porte-parole d'une nouvelle musique. Alors, nous allons écouter Benny Goodman and his orchestra. D'abord, And the Angel Sings, un thème de Mercer et de Hellman, comme expliqué précédemment. Et ensuite, Rose Room, un thème de Hickman et de Williams. Et donc, nous avons dans l'orchestre Ziggy Hellman, Chris Griffin, Irving Goodman, à la trompette, Red Ballard, Vernon Brown au trombone, Benny Goodman à la clarinette, Amy Scherzer, Noni Bernard au saxophone alto, Arthur Rollini, Jérôme au saxophone ténor, Jess Tassi au piano, Ben Heller à la guitare, Harry Goodman à la basse, Bud Schluss aux percussions, Martha Titon pour les voix, enregistré à New York le 1er février 1939 pour Victor sous la référence 03 031 87 5-1.
We meet and the angels sing. The angels sing the sweetest song I ever heard. You speak and the angels sing. Or am I reading music into every word? Undiscovered shore. Then suddenly I see it all change. Long winter nights with the candles gleaming. Through it all, your face that I adore. You smile and the angels sing.
Des orchestra Angels Sing, et voici maintenant Rose Room, Benny Goodman Sextet, dans lequel il y a Benny Goodman à la clarinette, Lionel Hampton au vibraphone, Fletcher Anderson au piano, Charlie Christian à la guitare, Artie Benstein au piano, Nick Fatoul aux percussions, enregistré à New York le 2 octobre 1939 pour Columbia sous la référence WCO 26133A, et ce sera la fin de l'émission. Bonne semaine.